Bienvenue à MecMatch, épisode aujourd'hui, on a Monsieur Serge Pelletier avec nous. Sergio, comment vas-tu, mon ami?
Ça va bien, merci pour l'invitation.
Ça me fait plaisir, on se croisait souvent à l'époque où tu étais à MySports, et moi j'ai un secret à dire sur Serge. Il a de l'air sérieux comme ça à la télé, là, mais quand les caméras étaient off, qu'on était en train de prendre un café ou une bière derrière, là, faites attention à Serge. Serge, on va passer au vif du sujet, OK? Moi, on va parler de coaching, mais de coaching, c'est une situation que seuls les coachs peuvent vivre, puis je serais curieux de voir ton opinion là-dessus. Toi, t'es engagé en milieu de saison. C'est pas un coach qui ont besoin à Lugano, c'est un pompier. Toi, tu t'en vas là-bas pour éteindre des feux, là, parce que ça brûlait de partout. Puis on met pas en doute le travail du gars qui est venu avant toi. C'est pas le premier coach au monde qui se fait virer rapidement. McTavish s'est fait virer après 5 games en KHL. Ça fait pas de lui un mauvais coach. Ça arrive, ça peut arriver à n'importe qui. Mais toi, t'arrives là-bas, là, c'est... Donnez-moi à hausse, là, il y a du feu. Pardon. C'est plus ou moins ça qui... Le message de Nat Domenichelli, ça devait être plus ou moins ça, là. Éteins le feu, puis...
Oui, effectivement. Disons que quand tu arrives dans une situation comme ça, quand tu arrives en cours de saison, c'est très rare que le club qui te téléphone soit dans les premiers rangs au classement. Hein. C'est toujours un club qui a raté son début de saison. Donc, il y a un peu une crise de confiance chez les joueurs dans le vestiaire. Il y a également crise de résultats également. Donc, en peu de temps, il faut remettre les choses en place.
Et là, toi, t'es un gars qui fait ses devoirs. Et puis en plus, à MySports, puis tout ça, t'avais l'opportunité aussi souvent de voir les matchs de Lugano. Donc, t'avais vu plus ou moins tous les matchs de la saison. Là, tu t'assis, là, après avoir reçu l'appel de Nat qui te dit « Tu l'as, la job », là, t'es un gars compétitif. T'as pas coaché pendant 20 ans dans cette ligue-là parce que t'aimes perdre, là. Là, tu te dis « OK ». Ma première job, là, ma première pratique, c'était quoi ton premier objectif? Là? OK, là, ça, c'est où on est. La première chose qu'il faut qu'on change, c'est quoi?
Bon, la première chose au départ, c'est de, bien entendu, oublier le passé, parce que là, je veux dire, l'énergie est tellement négative dans le vestiaire que c'est difficile de faire pire. Donc, bien entendu, le premier critère, le premier élément, c'est changer l'énergie, justement, dans la tête des joueurs, dans l'environnement, dans le vestiaire. Donc, il faut vite passer à autre chose. Ensuite, bien entendu, une équipe qui joue bien défensivement, mais ça lui permet de s'enlever de la pression au niveau offensif. C'est-à-dire que on commence à donner un, voire deux buts de moins par match, mais ça va nous permettre justement d'en devoir en compter moins. Donc là-dessus, on a tout de suite mis l'accent justement sur notre jeu défensif pour pouvoir se libérer un peu, enlever de la pression sur les marqueurs.
Sur l'offensive, oui.
Sur l'offensive, exactement.
Parce que ça reste plus facile de gagner un match 3-1 que de gagner 7-4. Hein.
Oui, effectivement. C'est pour ça qu'on a gagné, d'ailleurs, plusieurs matchs 2-1.
C'est les trois points qui comptent.
Exactement. Mais à un certain moment donné, on a gagné des matchs 2-1 à Duke, 2-1 à Zurich, 2-1 à Genève. On allait chercher pratiquement des victoires à trois points partout à l'extérieur sur le score de 2-1. Donc, ça nous a permis justement d'accumuler beaucoup de points parce qu'on avait un gros retard sous la barre à récupérer.
Parce que à Lugano, j'en ai parlé dans l'entrevue avec Chris McSorley, que j'ai fait dans l'entretien avec Chris McSorley, on avait manqué son coup avec Spooner. C'est juste, on est passé à côté. C'était un bon joueur dans la mauvaise chaise.
Ouais, exactement. Je veux dire, Spooner, moi, je me souviens quand j'avais fait du scouting dans la Ligue américaine. À l'époque, il n'avait même pas encore commencé à être régulier dans NHL. C'était déjà un excellent joueur. Moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Mais voilà, apparemment que l'endroit où il est arrivé, effectivement, ça ne semblait pas plaire au staff qui était en place. Donc, on avait de la difficulté à lui trouver une place dans l'alignement. Et puis, effectivement, son destin était de courte durée à Lugano.
Ça peut arriver à toutes les équipes. Ça, c'est la loterie des imports, des fois. Un bon joueur dans un championnat X ne fait pas nécessairement un bon joueur en championnat suisse. C'est juste...
Ah, bien sûr, parce que je pense que le joueur a bien fait justement après ça en KHL, quand qui est parti là-bas. Effectivement, je pense que l'entraîneur qui était là avant moi recherchait plutôt un joueur de centre un peu two-way, tandis que Spooner, je veux dire, est un joueur.
Il joue sur une patinoire en pente.
Je vais être poli à caractère offensif.
Ouais. Et Lugano et tous ses péchés n'aident pas les joueurs qui jouent sur des patinoires en pente. Mais on va focusser sur. Toi, là, tu as reçu un beau cadeau. Arcobello s'en vient. Ça va aider ton power play. Ça va aider tes match-ups de première ligne. Tu sais qu'il va tenir les deux premiers défenseurs de l'autre équipe occupés toute la game. Tu dois avoir ouais, commencé que... à. L'été est plus le fun dans ce temps-là.
Oui, effectivement. Disons qu'Arcobello, il a démontré à Berne. C'est un gars, justement, qui a dominé le championnat suisse au cours des dernières années. J'espère qu'il va pouvoir emmener, justement, cette culture de la gang qu'il a pu mettre sur la glace à Berne dans les dernières années, parce qu'il a quand même gagné deux fois le titre avec Berne. Donc, on espère qu'il va être au rendez-vous pour les mêmes raisons avec Lugano à partir du mois d'août.
Dans un système de jeu en plus où il va patiner par en avant, ça risque d'être beau à voir.
Disons que justement, Berne était assez, assez classique, pas classique, mais était assez structuré dans son système de jeu la saison dernière. Si on regarde aussitôt que l'équipe avait aucune chance justement de mettre de la pression sur l'adversaire, ben là, on se regroupait à 5 en zone neutre. Et puis, on attendait l'adversaire. Disons que c'est une équipe qui a joué avec beaucoup de discipline au cours des dernières années. C'était payant. Mais je vais discuter avec Arcobello un peu de tout ça dans les premiers jours de notre future collaboration qui arrive à jouer.
Je pense qu'il va être content quand il va t'entendre dire « Sois responsable défensivement, puis quand t'as le puck, fais ce que tu veux avec. » Fais juste back-checker.
Je pense que ça ne devrait pas le déplaire, effectivement.
Tu sais, c'est une liberté qu'il aurait peut-être eu avant. Je pense que tu vas bien t'entendre avec. Il y a un autre import qui s'en vient, un ex-NHL, joueur, un ex au choix de repêchage en NHL qui a eu des up and down, qui a eu des hauts et des bas. Michael Bodker qui s'en vient à Lugano. Ça risque de faire un duo de choc assez impressionnant sur le premier power play. Le puck va bouger vite, en tout cas.
Oui, disons que surtout que Bodker, c'est un finisseur aussi, c'est un gars qui a un excellent lancer. Donc, on espère que les deux réunis ensemble vont pouvoir faire beaucoup de musique au cours de la prochaine saison. Et puis, on espère qu'il va y avoir une chimie qui va se développer entre les deux parce que, bien entendu, ça va être important justement. Il y a d'autres bons étrangers dans notre championnat. Donc, on espère justement que les deux vont pouvoir trouver leur marque et puis nous apporter des bonnes réjouissances pour la prochaine saison.
Quand je pense à un duo Arcobello et Bodker, je peux pas m'empêcher de penser il y en a un qui va contrôler le jeu puis l'autre qui va juste se chercher de l'espace pour aller finir ce que l'autre a commencé. Je pense que tu vas avoir un power play au-dessus de 20% cette année, toi.
On l'espère.
Ça va vite apprendre à dire Bodker Arcobello en italien dans les estrades à Lugano, je pense.
J'espère bien. Disons que je pense que Nat Dominicali là-dessus a fait un bon travail avec ces deux signatures-là. Après ça, ben ça va être mon travail de les mettre en condition justement pour pouvoir qu'ils puissent exprimer leur talent au service de Lugano la prochaine saison.
Serge, tu as eu des travails, toi, où tu as été directeur sportif et coach. Maintenant, tu es coach. Ta relation avec le directeur sportif, avec Nat, j'imagine que tu as connu pire.
Non, puis surtout que Nat, je l'ai eu comme joueur 3 ans dans un autre club auparavant. Donc, on se connaissait depuis longtemps. Lui d'un côté, il est aussi content, étant donné que c'est sa première année comme directeur sportif. Il est assez content, il me consulte souvent qu'est-ce que je pense de certaines décisions à prendre, certaines opérations à faire. Donc là-dessus, je veux dire, il est assez content ce côté-là, justement, d'avoir la relation et la collaboration qu'il y a en ce moment entre nous deux à Lugano. Et puis, ben, moi, de mon côté, ben, je ne demande pas mieux, justement, que tout se passe bien avec Nat au niveau du travail.
C'est une nouvelle génération de directeurs sportifs. Je pense à Nat Dominicali, je pense à Retour Effiner. C'est des anciens joueurs jeunes qui amènent peut-être des nouvelles idées. Je vais te poser la question out of the blue, mais est-ce qu'il fait quelque chose de différent ou ça reste une vieille école de GM?
Non, je pense que pour le moment, je veux dire, bon, c'est clair que moi, j'ai travaillé avec lui seulement une demi-saison. Pour l'instant, l'objectif, c'était surtout éteindre le feu, comme tu l'as mentionné au début de l'émission. Donc, non, je pense que c'est un gars qui est quand même, qui est à sa place. Il y a beaucoup, justement, qu'on se réunisse, beaucoup de meetings, voir comment nous, on voit les choses, dans l'équipe. Il nous amène son feedback, bien entendu. Après ça, la décision reste au coach. Mais, je veux dire, c'est travail hein, quand même. Je veux dire, je vais quand même utiliser le mot harmonie. Une bonne harmonie, justement, dans notre environnement de travail. Ça, c'est important. Et puis, il y a beaucoup de dialogue. Et, ben, disons, au niveau des nouveautés, disons que dans les 20 dernières années, j'en ai quand même vu pas mal. Donc, pour l'instant, je veux dire, ça reste quand même pas mal du day-to-day au niveau du travail avec Nat.
L'hockey, c'est l'hockey.
Exactement, ouais.
On a parlé beaucoup dernièrement, ben pas beaucoup, mais ça sans dire que c'est passé inaperçu. En Suisse romande, on a peut-être moins parlé, mais il semble avoir des soucis entre l'accord entre Lugano et les Ticino Rockets. Est-ce que c'est un problème qui va se régler ou c'est un problème qui on s'en reparlera en 2021?
Ben, disons que nous, notre position à Lugano maintenant est une position qui est très claire avec les Ticino Rockets. Nous, on va assumer justement 4 joueurs suisses. Au niveau de leur salaire et tout le reste, plus un joueur étranger. Ça, c'est les 5 joueurs qu'on va mettre à disposition des Ticino Rockets. Autrefois, si on veut, dans le deal initial, Lugano est également responsable de prendre en charge la moitié du déficit des Ticino Rockets. C'était l'accord qui existait dans les 3 premières années. C'est pourquoi maintenant Lugano s'est retiré justement de cet accord-là, va uniquement mettre 5 joueurs à disposition, salariés par l'Hockey Club Lugano, au service des Ticino Rockets.
Parce que Lugano, vous avez besoin de cet arbre de formation-là pour aider vos jeunes juniors élites. Faut que vous leur trouviez un endroit où jouer. Et ça semble être la solution la plus proche et la plus logique pour le moment.
Ouais, disons que je veux dire, ces joueurs qui jouent junior élite peuvent avoir une expérience supplémentaire en jouant en Swiss League durant son parcours junior. C'est une bonne addition au niveau de son développement. Il y a également des joueurs justement qui terminent leur stage junior, ils sont pas encore prêts de rentrer en première équipe à Lugano, donc ça leur permet un peu comme la Ligue américaine en Amérique du Nord justement de faire peut-être une voire 2 saisons. En Swiss League avant de passer en National League avec l'Hockey Club Lugano. Donc, ça reste, si on veut, un club partenaire, un club justement qui permet d'être un certain trait d'union avec l'Hockey Club Lugano.
On va changer de sujet un petit peu parce qu'il y a un petit sujet que j'aimerais traiter avec toi. L'agent de Richard Kronberg, le coach de Zurich, est sorti dans les médias il y a quelques mois. C'est passé inaperçu à cause du COVID et tout ça, là, mais il est sorti dans les médias à ESPN pour dire qu'il comprenait pas que la NHL prenait pas de chance sur des coachs européens comme lui, que c'était injuste, qu'il y avait pas de, que la NHL ne donnait pas les jobs au mérite, mais bien au qui tu connais te donnait des travails. Toi, ça fait 20 ans que tu coaches, là. Tu conseillerais à ton agent de dire ça, toi, dans les médias?
Ben, pas vraiment, tu sais, je veux dire, si je fais référence justement je veux dire, à ma position, je veux dire, moi, je veux dire, je suis engagé en Suisse parce que justement, je connais le championnat suisse, je connais les joueurs, je connais les équipes. Alors, tout, je veux dire, comme on dit, j'ai fait mes devoirs dans un championnat que je connais bien. C'est difficile justement pour un club de NHL de donner, confier les rênes de son équipe à un joueur, un entraîneur qui n'a jamais coaché en Amérique du Nord. Je veux dire, si le. Souvent, qu'est-ce qu'il faut se rendre compte, c'est que les coachs, on devient des spécialistes dans un endroit justement qui on a su développer. On a su développer justement des années de travail justement afin de connaître le championnat à fond. La réalité de l'Amérique du Nord est complètement une autre réalité du hockey suisse, du hockey suédois, etc. et tout. C'est complètement. C'est pour ça que je veux dire que les équipes, par exemple, veulent des joueurs juniors européens qui aillent faire qui vont faire leur classe dans les équipes juniors au Canada. Et puis ensuite, ces joueurs-là sont promus dans la Grande Ligue, dans la NHL. Je prends justement l'exemple d'un Nico Hischier, par exemple. Nico Hischier s'est expatrié à Halifax Junior. Il a connu une excellente saison dans la Ligue junior majeure du Québec pour se faire repêcher et ensuite être promu en NHL. Mais Nico Hischier a fait ses devoirs. Il a fait ses classes en Amérique du Nord pour pouvoir être un élément en NHL. Pour les coachs, exactement la même chose. Tu dois faire tes classes, tes devoirs sur le territoire donné avant justement d'être promu dans une équipe de NHL. C'est ça qui, pour moi, qui fait du sens.
Parce qu'on ne commencera pas à faire la liste de tous les Québécois qui font de l'autobus en AHL puis en East Coast, qui sont juste à côté puis que c'est tout le temps « We already have a Frenchie. On a déjà un Frenchie, fait qu'on n'a pas besoin d'un deuxième. » Et, ouais. C'est pour ça que des fois, moi, ça me ferait quand les Européens vont se plaindre de ça. Le profilage, si tu veux, en NHL, il existe pour les Québécois. Pour eux, un Québécois, c'est aussi proche qu'un Américain. C'est la même chose qu'un Européen. Donc, pour réussir, un coach québécois qui sera en NHL, c'est un exploit maintenant. T'as des Ben Grou, des Pascal Vincent qui dorment en OHL depuis plusieurs années. Qui n'ont pas plus de chance que Richard Grönberg qui a coaché une sélection avant d'arriver à Zurich. Donc, moi, c'est mon opinion personnelle. Après, ça vaut ce que ça vaut.
Ouais, bon, c'est clair que bien entendu, après ça, je veux dire, ça prend justement le directeur sportif ou le directeur gérant qui t'a vu coacher, qui te connaît, qui connaît tes capacités, qui est prêt justement à te laisser, on dit, et je vais utiliser l'expression donner ton break, justement, recevoir justement cette opportunité-là de coacher en NHL. Ça peut arriver, je prends justement le directeur gérant de Columbus, par exemple, qui est un Finlandais.
Ouais.
Mais il a travaillé plusieurs saisons en Amérique du Nord avant de devenir directeur gérant des Blue Jackets de Columbus.
Ils sont pas allés le chercher en Finlande. Il avait travaillé, ouais. Avant d'être en Finlande, il avait travaillé 15 ans à Ottawa, à Saint-Louis. Il avait payé ses dûs, comme tu as dit.
Exactement. Tu sais, je pense un exemple, un coach, par exemple, en Suisse en ce moment, c'est beaucoup plus facile d'aller coacher en Finlande, d'aller coacher en Suède, voire même en KHL, parce que quelque part, c'est pratiquement le même système européen, un peu dans toutes les ligues qui sont ici de ce côté. Le système nord-américain, je veux dire, c'est 84 matchs, c'est énormément de voyagements,
c'est des joueurs vedettes aussi.
Ouais. L'approche pour les entraînements, c'est différent. La gestion, justement, de joueurs millionnaires est aussi une autre approche, une autre gestion également. Donc, il y a plusieurs éléments, justement, qui ne sont pas les mêmes.
Je pense qu'on oublie la pression quotidienne que les gars de NHL vivent. Les coachs de NHL, c'est t'es jugé sur ta dernière game. Donc, les seules journées où t'as la paix, c'est sur les back-à-back. C'est sur les matchs aller-retour. Là. Parce qu'ils n'ont pas le temps de te faire chier dans les médias ou de te faire chier. Ton GM n'a pas le temps de tout analyser. Mais sinon, la pression, c'est une pression continuelle. Là. C'est plus un jeu rendu en NHL.
Non, c'est clair que la pression est omniprésente à chaque jour. Disons que déjà, bon, cette saison, ça va être différent, là, mais déjà, faire 16 équipes qualifiées pour les playoffs sur 31 équipes, c'est un, évident, là. C'est comme si en Suisse, on ferait les six premiers font les playoffs et puis les six autres ils étaient en vacances. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'équipes qui il y aurait beaucoup d'équipes, beaucoup de présidents qui se manifesteraient à la prochaine assemblée de la Ligue pour changer la formule.
Beaucoup de coachs qui perdraient leur job, en tout cas.
Aussi.
Parce que, oublions pas non plus que même en Suisse, la saison dernière, il y avait quatre nouveaux coachs. Il y a eu toi qui a commencé à coacher. Volven, c'était sa première saison. Patémon, c'était sa première saison. Kronberg, c'était sa première saison. Ça veut dire qu'il y a une job sur trois qui a changé.
Et ouais, là, il y a Berne aussi qui a changé avant la fin.
Berne qui a changé, 5. On est rendu là. Tu peux pas changer 23 joueurs. Tu peux changer de coach, par exemple.
Ouais, mais c'est clair que c'est toujours la décision la plus facile à prendre. Parce que, bien entendu, si tu mets des joueurs dehors, le système en Suisse est difficile d'en engager d'autres bons durant la saison. C'est pratiquement, voire pratiquement impossible. Donc, à ce niveau-là, c'est plus facile de changer les coachs. J'ai toujours le premier responsable, c'est toujours le coach qu'on change. C'est connu depuis belle lurette, comme on dit.
Maintenant, revenons un peu à Lugano. Est-ce que tu t'étais ennuyé des derbys Embry-Lugano?
Quand j'ai revécu justement ces derbys-là, les derbys ticinois, je me souvenais que c'était intense, mais c'est toujours aussi malade que c'était, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qui est assez cocasse dans les derbys Lugano, c'est que quand t'es coach là-bas et puis tu gagnes ton derby, là, après ça, tu te dis, bon, ben là, je m'envoie la paix pour un mois. Parce que là, t'as gagné le derby. Mais quand tu le perds, là, tu vas jouer encore 4-5 matchs, mais tu vas te faire encore poser des questions sur le derby que tu as perdu il y a 5 matchs avant. Donc, c'est assez...
C'est intense.
Effectivement, c'est intense. Assez que tu as un petit peu le sentiment que c'est pratiquement le seul match qui compte pour eux autres, quoi.
Ben, moi, je pense, j'ai parlé à certains joueurs qui m'ont dit, je pense que si on perd tous nos matchs de l'année et qu'on gagne juste nos matchs contre Embry, je pense qu'on se fera pas trop crier dessus par la presse. Là. Si on a battu Embry toute l'année, on va être bon.
On va être tranquille. Hein? Ouais.
C'est, toi, tu as vécu en plus les deux côtés du derby. Là.
Ouais.
Quel côté c'était pire?
Je pense que, bon, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en Brie, je veux dire, et des fois, ça arrive qu'ils sont un peu moins bien placés au classement. Donc, quand le match contre Lugano arrive, c'est comme, faut gagner ce match-là absolument parce que, un, on souffre au classement, et puis, deux, au niveau de, si on peut dire, au niveau du public, si on réussit à gagner ce match-là, ça va nous mettre donner un petit peu de, comme ils disent au Québec, un peu de lousse, là. Ça va nous donner un peu de, nous permettre de respirer un peu. Tandis que Lugano, ben, c'est un back-to-back, c'est un deux matchs, justement, le week-end. Tu joues vendredi, samedi. Si t'échappes le derby, il y a de fortes chances que le lendemain, t'as déjà annulé ta défaite parce que t'as gagné ton prochain match le samedi soir. Donc, la pilule, elle passe peut-être un peu plus facilement, quoi.
C'est le petit contre le grand, un peu, hein. C'est,
Ouais. Quand même mis trois points en banque durant le week-end. Et puis, comme tu dis, c'est le petit contre le grand. Donc, à quelque part, je veux dire, on pardonne plus facilement lorsqu'Ambry perd, mais on pardonne moins facilement quand Lugano perd le derby.
Là, présentement, dernière question avant de te laisser aller, Serge. Présentement, il y a beaucoup de discussions pendant tout l'été, etc. Mercredi prochain, il y a une réunion de la Ligue. Au mois d'août, il y aura des votes. Il y aura ci, il y aura ça. Comment tu vas faire pour garder ton focus sur « moi, j'ai une saison à préparer ». Peu importe ce qui arrive, qu'on joue devant des salles vides, qu'on joue devant des salles pleines, qui parle de plafond salarial, comment tu gardes ton focus et surtout, comment tu penses que tu vas... parce que tu vas avoir quelque chose à gérer en tant que coach. S'ils installent un plafond salarial sans en avoir parlé aux joueurs, tu vas passer une semaine assez ordinaire.
Oui, non, c'est clair. Je pense que, bon, déjà dans un premier temps, moi, j'ai déjà contacté tous mes joueurs un par un pour justement leur dire, écoutez, préparez-vous, là. Déjà, le premier scénario, c'est pas sûr qu'on va commencer le 18 septembre. Donc, le premier match officiel, ça va peut-être être retardé. Donc, la préparation risque d'être plus longue. Il va falloir se montrer créatif. Il va falloir que vous, les joueurs, gardez votre focus au bon endroit justement pour justement être prêt si la saison est retardée. Concernant le cap salarial, moi, personnellement, je crois qu'il va rien se passer en ce moment. Je pense qu'on n'est pas encore prêt justement à établir tout ça avec une seule réunion. Je veux dire, en ce moment, je veux pas faire l'avocat du diable, mais en ce moment, on est en train de parler de vouloir, je veux dire, vouloir établir un cap salarial, mais on ne sait pas encore officiellement si le premier match va avoir lieu le 18 septembre. Donc, je pense qu'il y a des préoccupations justement qui sont ailleurs en ce moment. Et puis, difficilement pour la prochaine saison, ça va avoir lieu le cap salarial. Éventuellement, un jour, peut-être dans le futur, ça va peut-être arriver. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de discussions. Il y a aussi le nombre d'étrangers que les clubs discutent en ce moment. Moi, je retiens une chose justement de cette situation-là. Il faut pas oublier qu'avant que le virus arrive en Suisse, justement, à cause de ce virus-là, on a annulé les playoffs, on a mis un terme à la saison. Il faut pas oublier que le hockey suisse était en forme. Je veux dire, il y a du monde dans les patinoires. Il y avait
La
au
parité était
niveau
presque atteinte.
la parité était presque atteinte. Il a fallu attendre le dernier week-end de championnat pour déterminer quelle équipe allait participer aux playoffs. Donc, le produit était sain. On avait un bon produit, les choses se passaient bien. Là, maintenant, il y a le virus. Il ne faudrait quand même pas tout remettre en question parce que le virus est arrivé. Je comprends que toute entreprise dans le monde, il arrive une pandémie, tu dois remettre quelque chose en question parce que là, tout s'arrête et ça te donne du temps pour réfléchir. Donc, c'est normal, justement, peut-être qu'on veut améliorer des choses. Moi, personnellement, j'aimerais bien voir des caméras sur les lignes bleues pour avoir de l'air plus intelligent quand je demande un coach challenge. Je veux
Ça,
dire,
c'est un énorme souci. Moi, j'ai posé la
c'est un
question.
énorme souci qui n'a pas été réglé, mais là maintenant, on est en train de s'aventurer sur d'autres choses sans avoir réglé des problèmes qui étaient existants dans les derniers matchs.
Regarde, moi, j'ai interviewé les joueurs, j'ai fait une vidéo sur les questions-réponses avec eux. Ils ont tous dit, caméra ou ligne bleue, ça coûte combien qu'on puisse. Je pense que ça conduit comme ça, c'est les coachs qui vont y payer les caméras dans les patinoires, là. Tu vas dire, hey, mais allez acheter deux GoPro, là, ça va me coûter 500 francs, mais moi, c'en une de chaque côté, là. Puis, peux-tu, s'il te plaît, dire aux arbitres on va leur fournir la vidéo des lignes bleues, nous autres? Parce que c'est tellement simple à régler et ça a l'air tellement compliqué quand ils en parlent.
Ouais, non. Le problème dans tout ça, c'est que comme coach, souvent, tu as le sentiment que c'est un hors-jeu, mais l'arbitre n'a pas les images justement pour déterminer si effectivement c'était hors-jeu ou pas. Donc, ce n'est pas nécessairement la faute du coach qui a demandé le coach challenge, mais la faute est à la technologie manquante lors des matchs.
Parce qu'on a,
C'est
quand on faisait
malheureux.
des matchs, tous les deux à MySports, avec Stéphane, avec Alex, des fois, il y avait des situations d'hors-jeu ou de but ou d'obstruction sur le gardien. Nous, ça nous prenait, parce qu'on avait les images et tout, ça nous prenait deux visionnements pour dire ah, OK, c'est bon. Et là, eux autres, ça fait 15 minutes qu'ils sont dans la boîte d'arbitre en train de se demander la couleur des cheveux de son ex-femme. Moi, je ne comprends pas où on est rendu. Est-ce qu'on est rendu au point où maintenant ça prendrait un war room comme en NHL où le gars, l'arbitre, il fait juste aller au téléphone, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon, ok, merci.
Moi, je me souviens que quand j'étais directeur sportif à l'époque à Fribourg, dans une assemblée de la Ligue, j'avais justement suggéré de mettre une war room justement pour un aussi libérer les arbitres. Moi, je me mets à la place de l'arbitre qui
Dans un
patine
derby,
up and
Lugano
down,
Embry, hein?
qui est qui est en sueur, qui va voir les images vidéo, c'est pas évident pour lui là, de prendre une décision dans des conditions semblables. Alors, on m'avait dit à l'époque qu'on avait rejeté ma proposition parce qu'on m'avait dit que ça va coûter trop cher.
Ça pourrait être négocié. Sincèrement, là, moi, je vais leur donner une idée. Là. Ça pourrait être négocié dans le prochain contrat avec MySports ou avec qui gagnera les droits télé. Mais de mettre une petite pièce avec trois gars dedans, qui a le feed MySports ou le feed des prochains, j'espère que ça va être MySports, mais qui a le feed, qui reçoit les images directement de MySports, ça vient de régler le problème. Tu as un ancien coach, un ancien joueur, puis un technicien. Là, puis...
Ouais. Puis même encore, tu peux même mettre l'arbitre qui n'est pas convoqué à un match un
c'est
soir,
ça.
Qui va dans le war room. Donc lui, il continue d'être actif prenant ces décisions-là au lieu d'être chez eux à rien faire.
C'est pour moi, on est rendu là parce que ça brise le rythme des matchs. C'est rendu au point où ça a une influence directe sur le match parce que ouais, si ça arrive, tu perds par un but, il y a un jeu comme ça qui arrive, tu as le temps de reposer ta première ligne pendant 6, 7, 8 minutes, le temps qu'ils prennent la décision, là. Ça donne un coup de main. Hein. C'est... Ouais, t'as le momentum de ton bord, puis là, tout d'un coup, le monde s'écrase.
Ouais, puis qu'est-ce qui est assez comique là-dedans, c'est que les coachs, on a 30 secondes pour décider si on demande un coach challenge. Mais l'arbitre, lui, prend peut-être 6, 7, 8, 9 minutes pour décider s'il y a hors-jeu ou le but est bon ou pas bon. Tu sais.
Parce que...
Donc, tu as 30 secondes de stress, justement, pour décider si tu le demandes ou pas. Après ça, eux, ils font dérouler les images une derrière l'autre.
Ouais. Alors, frame by frame.
Ouais, exactement.
Milliseconde par milliseconde. Tu sais. Ouais. Ils font perdre le temps à tout le monde dans les estrades aussi. Mais ça, je pense que la solution est dans le war room. Je pense que d'ici 5 ans, il faut que la National League se rend à l'évidence qu'il faut investir sur un war room.
Pour ah, définitivement. Ouais.
Libérer les arbitres. Et si tu vois, c'est ça le truc. C'est quelque chose qui aura une influence directe sur le jeu. Ça aiderait tout le monde.
C'est clair.
Je suis content qu'on parle du plafond salarial. Puis je suis content qu'on parle de la définition d'un étranger. Je pense que c'est des conversations qui méritent d'avoir lieu dans l'hockey suisse. Mais tu sais, des caméras ceiling bleu, un war room. Des back-à-back Davos-Genève. Peut-être, il y a des soucis d'horaire des fois qui pourraient être réglés avant de s'occuper aux gros problèmes. Il y a des petits problèmes qui feraient le bonheur de tout le monde.
Oui, parce que dire nous, quand on a vendredi soir, on va à Genève jouer, puis le lendemain, on joue à domicile. On s'entend que le samedi, je convoque pas de morning skate. Hein?
C'est ordinaire. C'est ça, c'est ordinaire.
Tu reviens à 4-5 heures du matin pour jouer ton match le lendemain. Là, disons qu'on dit aux gars, ben, on se retrouvera au match demain soir, les gars.
Dormez. Hydrate and sleep.
Exactement. Exactement.
Tous ces changements-là, moi, je crois qu'un jour, ça va arriver. C'est juste que plus longtemps je passe en Suisse, plus je me rends compte, il faut juste leur donner le temps d'assimiler l'idée, d'en discuter.
Oh oui, mais ça va...
Et ça va arriver parce que c'est des choses logiques. Les dirigeants des clubs savent très bien, d'un point de vue du spectacle, un war room, c'est bon, que c'est inévitable qu'un jour, il y ait un genre de un système de plafond salarial. Ça arrivera peut-être pas l'année prochaine, mais d'ici 5 à 10 ans, ça va arriver parce que si on commence à en parler, il y a du monde où on va faire des fixations là-dessus. Puis...
Oui, puis aussi, il faut qu'au niveau du plafond salarial, il ne faut pas que ce soit seulement un truc pour économiser de l'argent, il faut que ça soit réglementé, je veux dire, de A à Z, c'est-à-dire aussi également avec les agents, que l'agent devienne aussi un agent officiel de la Ligue suisse de hockey sur glace.
Ah, il n'y aura plus de. Joel Clodo ne peut pas représenter un joueur. Là, le demi-cousin de la cousine du joueur ne peut pas aller négocier un contrat pour lui. Ça va devoir être. Tout va passer par une convention. À la fin de la journée, là, ça s'appelle. Il n'aime pas le terme, là, mais c'est une convention collective.
Effectivement. Puis l'agent, à ce moment-là, va avoir aussi une responsabilité envers la Ligue, pas seulement uniquement envers son client. Quoi.
C'est ça. Il ne pourra plus accepter des petits cadeaux à gauche et à droite de certains clubs, puis il ne pourra plus prendre l'argent des deux bords de la clôture. Non, mais c'est une réalité. On va arrêter. Mais prononce-toi surtout pas là-dessus, mais moi, je peux le dire aux gens. Bah ouais. Serge, à chaque fois que je rencontre des gens, je laisse toujours la chance. Puis des fans de Lugano en Suisse romande, j'en rencontre plein. Mon voisin de palier est un gros fan de Lugano. Donc, je vais te laisser 30 secondes pour dire bonjour aux fans romands et leur souhaiter sûrement un bel été. Puis des promesses encore de coach pour la saison prochaine.
Ouais, merci bien. Disons que je souhaite à tous les fans, justement, d'hockey sur glace, pas seulement au Tessin, mais je veux dire dans toute la Suisse au complet, de passer une bonne été, de justement de rester respectant encore les consignes, parce qu'on a toujours pris avec ce virus, mais on espère justement de retourner dans la normalité le plus rapidement possible. Puis je suis convaincu que on va, pour tous les fans du hockey sur glace en Suisse, ben on va vous offrir du hockey le plus rapidement possible. Il faut rester positif. Je pense que la reprise va se reprendre comme prévu le 18 septembre.
On le souhaite tous, parce que ouais, ça va commencer à manquer à tout le monde. En plus, on a des playoffs tout l'été avec la NHL. Je ne sais pas comment je vais faire pour masser un 13 août pour regarder du hockey, mais on va y arriver.
Comme on dit, je pense que les gens veulent le revoir du hockey, donc il faut leur en redonner le plus rapidement possible.
Mesdames, messieurs, c'était Serge Pelletier, le sympathique Serge Pelletier. Si vous le rencontrez, payez-lui une bière.
Merci, Steve.
Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter. C'était McMatch. Ciao.